Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le juge des référés du tribunal administratif déboute le général Marquis Letchia. L'ex-directeur de la sécurité civile avait été démis de ses fonctions en juillet dernier pour des soupçons de malversation financière et de harcèlement moral. Il avait déposé un référé suspension pour faire annuler la décision du gouvernement, Elisabeth Noir.
Ce référé suspension auprès du tribunal administratif n'est que la première étape juridique pour le général Marquis Letchia. Ce n'est pas un jugement sur le fond. L'ancien directeur de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, avait été suspendu par le gouvernement en mars avant d'être démis de ses fonctions en juillet dernier pour des soupçons de malversation financière et de harcèlement moral. Il avait déposé un référé suspension pour faire annuler l'arrêté du gouvernement et l'affaire avait été examinée mardi par le tribunal administratif qui avait entendu les deux parties. Le juge des référés a rendu sa décision aujourd'hui et il rejette donc la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du gouvernement. Il estime en effet que compte tenu des responsabilités attachées aux fonctions exercées, des mandatements relevés, des manquements relevés et de l'impact de leurs révélations sur le fonctionnement de la direction, le gouvernement était fondé à suspendre le général Marquis Letchia de ses fonctions. Le juge des référés rejette également la demande du général Marquis Letchia concernant l'arrêt de sa rémunération et l'obligation de quitter son domicile de fonction. Il relève que le courrier du président du gouvernement qui lui signifie ses décisions est purement informatif et que ce n'est donc pas une décision attaquable. On rappelle qu'en parallèle, une procédure pénale a par ailleurs été ouverte à la suite d'un signalement fait auprès du procureur de la République.
Quel dispositif de sécurité pour éviter les troubles à l'ordre public dans cette période sensible à proximité du 24 septembre ? C'est le haut-commissaire Jacques Billon qui sera demain notre invité du matin. Il sera notamment interrogé sur les effectifs des forces de l'ordre, sur l'état de la délinquance et sur les points de vigilance particuliers. Une interview du haut-commissaire Jacques Billon à suivre demain à partir de 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Rappelons que la vente d'alcool est interdite sur le territoire pendant 11 jours. La décision a été rendue publique hier à la mi-journée, à la veille de manifestations et événements prévus sur l'ensemble du territoire et pour éviter tout trouble lié à une consommation excessive d'alcool. C'est ce qu'a indiqué le haut-commissariat dans un communiqué. Depuis ce matin et jusqu'au 28 septembre inclus, il est donc interdit aux magasins de vendre des boissons alcoolisées. En revanche, les débits de boissons de première, deuxième et quatrième catégorie peuvent toujours en vendre pour une consommation sur place.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. L'interdiction de vente d'alcool pendant 11 jours à proximité de la date du 24 septembre. Est-elle, selon vous, une mesure excessive ou adaptée à la situation ? Si vous pensez que cette interdiction est excessive, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle est adaptée à la situation, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut encore renforcer la sécurité aux abords des lycées et des établissements scolaires. Ils sont 11% à penser que ce n'est pas nécessaire. Et puis notez que c'est le président du gouvernement Alcide Ponga qui sera demain l'invité d'Elisabeth dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le 54e sommet du Forum des îles du Pacifique auquel il a participé à Honiara, mais aussi sur l'actualité politique calédonienne et nationale, sur l'accord de Bougival ou encore sur le transport aérien dont il a la charge. Alcide Ponga, invité de Transparence, c'est demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. L'USTKE relaie le mouvement de grève des syndicats de métropole. C'est la nuit prochaine pour nous qu'une action est prévue au niveau national, mais c'est ce matin que le syndicat s'est mobilisé en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
Et quelques 400 personnes ont répondu à l'appel de l'USTKE qui a organisé une mobilisation devant le Haut-Commissariat. Plusieurs intervenants se sont succédés au micro, dont Mélanie Attapo, la présidente de l'USTKE. Elle a justifié le mot d'ordre de grève générale lancé par son syndicat et elle a rappelé l'origine de ce mouvement national.
Ce sont des sujets qui font écho à nos revendications ici locales, même si on est dans un contexte de crise économique et sociale et que pour certains, ils ne comprennent pas pourquoi l'USTKE appelle à la grève générale aujourd'hui, alors que beaucoup peinent à survivre. Mais pour nous, l'USTKE, c'est justement là qu'il faut se lever pour marquer l'unité des travailleurs et la solidarité quand il s'agit des travailleurs en France. Nous, ici, nous disons que nous sommes concernés puisque ces attaques contre le social, le monde du travail se généralisent. Et donc, nous ne sommes pas épargnés aujourd'hui dans ce contexte de crise.
L'USTKE avait invité les autres organisations syndicales à se joindre à la mobilisation, mais seule la CNTP, la Confédération des travailleurs du Pacifique, qui appartient elle aussi au nouveau FLNKS, a rejoint le mouvement. Cette grève générale semble avoir eu peu de répercussions sur le territoire. La société Caleco a prévenu que son service de ramassage allait subir des perturbations aujourd'hui. Et dans la province nord, l'internat de Yingen a dû fermer parce qu'il n'était pas en mesure d'assurer le service d'accueil ni la confection des repas. Mais il rouvre normalement dès demain.
Deux inaugurations cet après-midi à la fois auxquelles a assisté Sonia Baquès. La présidente de la province sud a notamment inauguré les nouveaux locaux de la police municipale, Léo Fichou.
Oui, c'est à l'entrée sud du village, juste après la passerelle Marguerite, le long de la RT1, que les deux gardes champêtres de la commune ont désormais leurs propres locaux. Un bâtiment réhabilité, sécurisé, aussi grâce au financement de la province sud et de la commune de La Foix. Un investissement total de 10 millions de francs, dont 8 millions de la province sud. Comme Sonia Baquès l'a expliqué, la sécurité n'est pas une compétence de la province, mais il est important que tous les acteurs soient concernés.
C'est important parce qu'en fait, c'est une attente très forte des populations. Il y a un besoin de sécurité qui a augmenté avec les émeutes et une tension également parce qu'ici à La Foix, on a des gens qui viennent un peu partout dans le bassin avec des tensions sociales importantes. Il y a des cambriolages de la faim, il y a des cambriolages évidemment d'opportunités, mais en tout cas il y a une tension financière et sociale de la part de tout le monde et on a besoin d'avoir une réponse en matière de sécurité forte et la mairie ne peut pas financer ça toute seule, donc la province vient au secours de la mairie.
80% des travaux financés par la province sud, 20% par la commune, soit 2 millions de francs. Un local de la police municipale qui vient remplacer les bureaux en mairie et qui permettra aux deux gardes champêtres d'être au plus près de la population. Florence Roland, maire de La Foix.
Ce local-là permet aussi de recevoir du public, hein, chose qui n'était pas forcément possible de manière un peu plus intimiste. Donc le lundi après-midi et le mercredi après-midi seront ouverts les locaux de cette nouvelle police municipale de 13h à 16h, ce qui permettra aux administrés qui souhaitent entre guillemets se plaindre de certaines nuisances, de voir en direct les gardes champêtres, qui bien sûr resteront joignables aussi par téléphone sur d'autres plages horaires. Et ça vient vraiment compléter eh bien, le travail, le maillage terrain que nos gardes champêtres effectuent toutes les semaines.
Karl-Heinz Amboué est l'un des deux gardes champêtres de La Foix. Il apprécie déjà les bonnes conditions de travail qu'offrent ces nouveaux locaux.
Ah ben c'est tout neuf, c'est tout propre, c'est tout neuf. On était à la mairie avant. Là, on a tout à disposition. On a des beaux locaux, on a une cafette, on a tout ce qu'il faut pour bien bosser là. Eh ben, notre première mission, c'est de sensibiliser les gens, d'être à leur écoute. On travaille pratiquement 3-4 fois par semaine avec les gendarmes. On se relaie sur tout ce qui se passe, les vols, toutes les délinquances qu'il y a, les chiens errants, les sorties d'école. Enfin, voilà, tout ce qui ne va pas dans le territoire de la commune, ben, ça passe par nous. Et après, ça passe par les gendarmes pour tout ce qui est un peu plus compliqué, un peu plus grave.
Les nouveaux locaux de la police municipale de La Foix seront ouverts les lundis et mercredis de 13h à 16h. Le reste de la semaine, il faudra prendre rendez-vous.
Et avant d'inaugurer ces nouveaux locaux de la police municipale, Sonia Baquès s'est rendue à l'école Yvonne Lacour et elle a découvert une cour de récréation rénovée grâce au budget participatif de la province sud.
C'était effectivement l'inauguration officielle ce jeudi du projet « Quand la pomme de terre et l'eau s'invitent à l'école ». Un projet qui prévoyait l'installation d'un phare, de plusieurs abris de lecture et de quelques plantes. Une cour d'école qui, en quelques années, comme l'a raconté la maire de La Foix, Florence Roland, a bien changé. Florence Roland, je le rappelle, était élève dans cette école. Désormais, les élèves peuvent s'épanouir et apprendre dans de meilleures conditions. Ce jeudi, les grands élèves de CM2 ont présenté, entre deux chansons, ce projet qu'ils ont vu évoluer.
Eh bien, nous sommes là depuis 2021 et nous avons vu la cour évoluer. Elle est beaucoup mieux qu'en 2021.
Il y a eu des gouttes d'eau pour faire en référence avec la fête de l'eau. On a eu aussi une patate pour faire référence avec la fête de la pomme de terre.
Bah, on peut s'asseoir dans les bulles, on peut lire tranquillement, on peut se rencontrer, on peut faire plein de choses maintenant dans la cour.
Oui, en fait, avant, on pouvait rien faire. Avant, bah, en fait, on restait sur les bancs, on faisait rien. Ben maintenant, on s'amuse bien.
Un projet qui vise aussi à rendre l'école éco-responsable avec, en plus d'un décor agréable visuellement, une cuve de récupération d'eau de pluie pour arroser les fleurs de la cour. C'est aussi un lieu plus sûr pour les élèves, a expliqué la directrice de l'école, Odile Crenier. Ce projet est le résultat du budget participatif, comme vous le disiez Jean-François, un budget de la province sud. 80% des 38 millions de francs sont financés par la province, les 20% restants par la commune. Sonia Baquès, présidente de la province sud.
C'est toujours un plaisir le budget participatif parce qu'en fait c'est le projet des vrais gens du quotidien, choisi par les vrais gens et financé finalement par l'argent du contribuable. Donc c'est toujours des projets très concrets qui permettent de changer leur quotidien. Là, ces enfants, je pense qu'ils sont contents de pouvoir bénéficier de ce projet-là. Donc, c'est une réussite. Là, clairement, les élèves ont des très bonnes conditions de travail dans cette école. Ils ont cette cour qui est aménagée, mais ils ont aussi la clim dans toutes les classes. C'est une école qui fonctionne bien et qui a une directrice dynamique.
La cérémonie s'est clôturée par un goûter partagé entre tous les enfants, les équipes pédagogiques et enseignantes, les élus et les quelques parents présents.
Les élus du conseil municipal de Nouméa ont adopté la vingtaine de délibérations à l'ordre du jour de la séance qui s'est tenue hier soir. Parmi ces points à l'ordre du jour, un réajustement de l'organisation au sein de la police municipale. Les élus ont en effet approuvé la décision de regrouper au sein de la direction de la police municipale les agents chargés de la surveillance de la voie publique. Ces ajustements génèrent pour la commune une économie annuelle estimée à 12,251 millions de francs. Ils ont également, les élus, signé une convention d'assistance intercommunale de réception des appels au 18. Plusieurs communes sont en effet dites orphelines en matière d'appels d'urgence. C'est donc le centre d'appel de Nouméa qui les prend en charge. Cette convention a pour but de préciser le cadre de la collaboration entre les 10 communes partenaires et la ville de Nouméa. Écoutez, le colonel Bourgoin, c'est le chef de corps des sapeurs-pompiers de Nouméa.
Le CTA de Normandie gère, donc on a déjà une convention commune entre Nouméa et Païta, on reçoit ensemble les 18 et on gère ces 10 autres communes et on a également le mode secours de l'ensemble du territoire, donc c'est à peu près 75% des appels 18 qui tombent au CTA Normandie. Alors une année normale, effectivement, on tourne à peu près à 30-35 000 appels au 18 et l'année dernière, en 2024, en raison des émeutes, on est monté à plus de 50 000 appels. Et sur une période de 10 jours, nous en avons traité 9 000.
Là, c'est redevenu normal ?
Oui, c'est devenu normal. On a une activité quand même un peu plus importante parce que les gens sont plus en alerte dès qu'ils voient quelque chose et surveillent effectivement ce qui peut se passer dans la rue. Donc là-dessus, par contre, il est important que les gens nous appellent quand ils sont réellement témoins et ne nous appellent pas parce qu'ils voient une fumée au loin. Après, pour nous, c'est difficile à traiter.
Des propos recueillis par Léana Colombo. On retiendra aussi que les élus ont approuvé les termes du cahier des charges établi pour 5 ans pour l'exploitation des établissements de jeux de hasard Grand Casino de Nouméa et Casino Royal. Ces derniers vont contribuer davantage financièrement au développement touristique, culturel et artistique de la commune, souligne le maire Sonia Lagarde.
L'audit qui a été fait par la Chambre territoriale des comptes a mis en exergue que les casinos, à l'instar de ce qui se passe en métropole dans les villes qui possèdent des casinos, eh bien les casinos participent aux événements culturels de la ville. Donc on a signé une convention avec le Casino du Méridien qui va participer désormais, ce sera le cas pour la fin de l'année puisque nous allons faire cette année la féerie de Noël et on peut le faire avec cette participation aussi d'une vingtaine de millions et sur le casino du surf à partir de l'année prochaine environ 8 à 11 millions. Donc ça met quand même un peu de beurre dans les épinards pour pouvoir poursuivre effectivement tout ce qui est événementiel pour la ville. Ça nous donne un coup de pouce. Je trouve ça très bien parce que ça nous permet de continuer en mettant un peu moins d'argent.
Voilà, et plusieurs subventions ont également été votées lors de ce conseil hier soir à destination d'associations culturelles ou sportives. Et puis une page d'histoire commémorée demain. Les autorités civiles et militaires se retrouvent à 9h au pied de la Croix de Lorraine au Mont-Coffin. Elles célébreront le 85e anniversaire du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre sous l'impulsion du gouverneur Soto. C'était en effet le 19 septembre 1940. Il est 17h59, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB recherche un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. Info soir, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec la justice et 12 ans de prison prononcés cet après-midi par les jurés de la cour d'assises de Nouméa. La cour jugeait depuis hier un homme accusé d'une vingtaine de viols sur sa nièce à Païta. La victime était âgée de 7 à 14 ans au moment des faits. Le ministère public avait requis 15 ans de réclusion criminelle. La dernière affaire de cette session sera jugée demain devant la cour d'assises des mineurs en appel. L'an dernier, un homme avait été condamné à 5 ans de prison pour des violences en réunion sur un parking de Dumbéa en 2022, entraînant une infirmité permanente de la victime. Il est accusé d'avoir empêché la victime de fuir et d'avoir filmé la scène. Écoutez Claire Lannet, le substitut du procureur.
Ce dossier avait été jugé en 2024, lors d'une session d'assises précédente. 3 accusés comparaissaient à ce moment-là, devant la cour d'assises des mineurs, puisque l'un d'entre eux était mineur. L'auteur principal avait été condamné à 20 ans de prison. Le second auteur, donc celui qui était mineur au moment des faits, avait l'excuse de minorité à 6 ans. Et le dernier à 5 ans d'emprisonnement. C'est ce dernier d'ailleurs qui a fait appel et ce dossier est prévu sur une seule journée. C'est des violences en réunion, il est poursuivi pour des violences en réunion parce que, alors que l'auteur principal frappait, le second un petit peu moins, lui empêchait la victime quand elle arrivait à se redresser de partir et en même temps filmer la scène.
Et ce procès sera le dernier procès de cette 3e session d'assises de l'année. Le marché de l'emploi ne s'est toujours pas relevé des émeutes de mai 2024. Nous l'avons scruté ce midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Dans le seul secteur privé, 11 600 personnes se sont retrouvées au chômage au lendemain de l'insurrection. Aujourd'hui, ont expliqué nos deux invités, Élise Desmazures, la directrice de l'ISEE, et Philippe Martin, le directeur de la DTE. Les derniers chiffres montrent que la situation ne s'est pas vraiment améliorée.
Sur les derniers chiffres qu'on a, c'est une très légère augmentation sur le premier trimestre 2025. Par contre, c'est une augmentation qui n'est pas très importante par rapport à normalement la saisonnalité de l'emploi. Donc c'est une hausse qui est très limitée et qui, par contre, est confirmée. La stabilisation de l'emploi se confirme d'après les premiers chiffres qu'on a sur le deuxième trimestre. Et là, ce dont on parle, c'est uniquement dans le privé.
On a eu des chiffres par la CAFAT en faisant le lien entre les déclarations préalables à l'embauche et les ruptures de contrat. Effectivement, il y a confirmation d'arriver sur un plateau, alors qui est très bas quand même, la chute est stoppée.
Une stabilisation en trompe-l'œil a toutefois expliqué Élise Desmazures qu'à désormais les chômeurs en fin de droit échappent au radar.
Le nombre de chômeurs indemnisés diminue tout simplement parce que des gens sortent du dispositif. Ils sont arrivés au bout. Et au contraire, pour nous, c'est vraiment une aggravation et avec tous les risques de pauvreté, etc., qui sont liés à ces situations. Au pic, dans les chômeurs indemnisés, on était à 7 000. Aujourd'hui, on est revenu à un peu plus de 3 000, qui est le niveau habituel de chômage. Ouais.
Mais dans cette crise de l'emploi, certains secteurs ont été touchés plus que d'autres, a poursuivi la directrice de l'ISEE, mais les répercussions concernent tous les secteurs.
On a des secteurs qui ont vraiment connu des pertes d'emplois très importantes. On pense bien sûr au BTP et à l'industrie. Et ce qui se passe en général, c'est que ces secteurs vont être touchés, mais après tout ça, ça va se diffuser dans l'économie. Et ça se voit parce qu'on a aussi des grosses diminutions d'emplois de l'ordre de 10%, par exemple, dans les services, 17% dans le commerce. Donc effectivement, les pertes d'emplois se diffusent dans l'économie.
Si le chômage partiel spécial émeute a pris fin, il est prolongé par l'indemnité pour le maintien dans l'emploi. Le chômage spécial nickel est lui devenu résiduel. Mais tous ces dispositifs ont permis d'éviter une catastrophe bien plus grave. Ils ont un coût, a rappelé Philippe Martin.
Il faut qu'on se rende compte de l'ampleur de l'effort depuis 2024. Du 1er janvier 2024 à aujourd'hui, il y a plus de 33 000 personnes qui ont été indemnisées au titre d'un dispositif. Chômage total de droit commun, chômage total exaction, chômage partiel exaction, dont 23 000 au titre du chômage partiel exaction. Et ça représente un montant global de plus de 27 milliards. Donc effectivement, ça a été un effort considérable de l'État, évidemment, et de la collectivité Nouvelle-Calédonie, pour tenter de limiter les effets de la crise, des crises successives d'ailleurs.
Des extraits des jeudis de l'économie qui sont à retrouver dans leur intégralité en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Les derniers préparatifs pour la foire de Koumac qui débute dans moins de 24 heures maintenant. Après un an d'absence, l'événement sera en effet l'un des temps forts de ce week-end, Léana Colombo.
Ce sera un moment important, notamment pour la brousse calédonienne et une vitrine sur mesure pour le monde agricole. L'UPRA organisera encore une fois ses différents concours dès demain matin. Concours bovin, équin, ovin et porcin. Guy Monvoisin est le président du syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie.
Ce sont des foires qui ont, dans la nomination, c'est des foires agricoles. C'est le moment de remettre l'agriculture au centre un peu du débat. C'est la rencontre avec le public, avec tout le monde. Bon, tout ça dans une atmosphère... on va dire plutôt festive et bon enfant. Cette vitrine, à chaque fois, elle est indispensable et essentielle pour que le public nous voit et le public nous rencontre. Nous aussi, on se rencontre entre nous. Il y a toujours la démonstration de ce qu'on fait de mieux pour que le public voit la façon dont on... dans la production, notamment les productions végétales, puis la production comment on produit nos animaux, comment on arrive à avoir aujourd'hui une qualité de viande qui est reconnue pratiquement jusqu'à Paris. Pour avoir de la qualité comme ça, ben, ça veut dire qu'il faut du boulot derrière. Et ce boulot, ben, il faut qu'on le montre aussi. Et le public, il faut qu'il sache que les animaux, ben, ils sont bien traités, nos animaux, on les aime bien.
De nombreuses animations vont ponctuer le week-end à Coumac. Ce sera notamment l'occasion pour le public d'assister aux traditionnels jeux équestres, toujours spectaculaires. Larry Martin, responsable des jeux équestres.
Il y aura un trophée, en fait, ce sera quatre épreuves que les cavaliers vont faire pendant les trois jours. Donc le premier jour, le vendredi, il y aura le pole bending. La deuxième épreuve, ce sera du barrel race. Et le dimanche, nous aurons le parcours du stockman. On va prendre les 10 meilleurs de ces trois épreuves. Ils feront une finale de stock, c'est des slaloms autour des pneus. Donc les 10 meilleurs de ces trois épreuves seront départagés avec un nombre de points. Il y a plus de 150 chevaux sur le champ de foire. Et les jeux équestres représentent une centaine de chevaux avec des cavaliers qui viennent de toute la Nouvelle-Calédonie. Donc on est très content de les accueillir pour ces trois jours. Et on est content de vous accueillir pour la foire de Coumac.
Et en point d'orgue de cette 31e foire de Coumac, le rodéo qui va une fois de plus attirer la foule samedi soir à partir de 19h30. Il y aura un seul rendez-vous pour les rodéomen cette année, étant donné les difficultés financières. Mais les sensations fortes seront de la partie, nous a dit Laurent Moglia, l'organisateur du rodéo.
On prépare un grand rodéo avec 21 montes sur chevaux et 22 montes sur taureaux. Nous avons regroupé les deux groupes d'associations qui sont la Fédération de Rodéo et l'Union des Associations de Rodéomen. Donc on fait avec tout le monde. Donc on aura des pratiquants qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est un regroupement de tout le monde avec les meilleurs. On peut dire que cette année, on aura tous les meilleurs encore qui seront à Coumac pour ce grand rodéo, quoi. Du beau spectacle avec des grosses sensations. Faut venir à Coumac samedi soir à 19h30. Avant le rodéo, vers 19h, 19h10, là, on aura un spectacle, donc pour le moment, qui est une surprise, on va dire ça comme ça, avec une ouverture du rodéo. Mais voilà, faut venir, vous allez avoir du beau spectacle à Coumac ce week-end.
La 31e foire agricole et artisanale de Coumac, c'est donc à partir de demain. L'événement se poursuivra ensuite jusqu'à dimanche. Et notez que RRB y tiendra un stand tout le week-end. Vous pourrez nous y rencontrer et bien entendu jouer à la grande roue Radio Rythme Bleu.
Le lancement hier à Bouraille du Créathlon 2025. C'est une compétition basée sur l'économie, le social et la solidarité qui regroupe des étudiants venus de plusieurs établissements post-bac de Nouvelle-Calédonie. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat en tenant compte des impacts environnementaux et sociétaux, explique Naomi Dakoulsi. Elle est chargée de mission pour le dispositif Pépite NC.
Donc là, ils vont avoir effectivement 2,5 jours. Donc c'est des équipes, 11 équipes venues de tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, des îles de la province nord et de la province sud, encadrées par une dizaine de coachs professionnels, donc des entrepreneurs, chefs d'entreprise. Là, ils ont une journée complète pour développer leur idée et préparer ensuite une présentation et leur pitch. Après, on a toute une partie cohésion en fin de journée. Et enfin, demain, il y aura donc le passage à l'oral. Ils vont devoir pitcher leurs idées. Et c'est effectivement, si elle est retenue, c'est qu'on y voit un vrai potentiel de lancement. On leur proposera, bien sûr, à l'issue, poursuivre s'ils le souhaitent, en s'inscrivant, en postulant à Pépite pour entrer dans la promotion 2026 l'année prochaine. Et donc d'avoir un accompagnement dédié, etc., pour lancer leur projet.
Le Créathlon 2025 se déroule donc jusqu'à demain. Il est co-organisé par le lycée François d'Assise de Bouraille et l'association Pépite NC. Avant de marquer une nouvelle pause dans ce journal, tiens, je vais vous donner un petit conseil. C'est peut-être le moment d'envoyer chance au 40-20. Chance au 40-20, oui, il ne faut plus tarder parce que le tirage au sort aura lieu demain à 14h. Le cadeau, je vous le rappelle, un cadeau d'une valeur de 153 000 francs offert par le Sheraton Deva. Logé trois nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour deux personnes. C'est donc offert par le Sheraton Deva. C'est simple, il faut envoyer chance au 40-20 dès maintenant. Faites-le dès maintenant et faites-le plusieurs fois. Chaque fois que vous jouez, vous augmentez évidemment d'être tiré au sort, vos chances d'être tiré au sort. Tirage au sort qui aura lieu demain à 14h, 18h09. Dans un instant, la dernière page de ce journal avec l'actualité dans la région et le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
Et avec l'actualité dans la région, avec ce qui peut apparaître comme un revers diplomatique pour l'Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese est en Papouasie où il devait signer un important accord stratégique avec son homologue papou, mais le traité n'a finalement pas été signé. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Ce traité visait notamment à intégrer les forces armées des deux pays, de les engager ensemble dans la défense mutuelle de leur territoire et de confirmer la décision prise par Port Moresby de faire de l'Australie le premier partenaire de choix de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en matière de sécurité. Toute alliance avec l'Australie est dans l'intérêt de la nation, avait même déclaré le Premier ministre papou, James Marape. Certains membres de son gouvernement lui ont toutefois demandé de sursoir à la signature du dit traité afin, ont-ils dit, de leur laisser le temps d'en examiner plus attentivement le contenu. James Marape et son homologue australien Anthony Albanese ont donc publié plutôt un communiqué expliquant que le pacte en question sera signé prochainement. La Chine n'a rien à voir là-dedans, a toutefois jugé bon de préciser James Marape, lequel a également annoncé que pour expliquer la position papou, son ministre de la Défense Billy Joseph s'apprête à entamer une tournée des capitales amies avec, pour première escale, Pékin. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Un revers donc diplomatique pour l'Australie après celui de la semaine dernière, puisque le Vanuatu a rejeté le traité Nakamal d'un montant d'un peu plus de 33 milliards de francs proposé par l'Australie, sans nommer la Chine. Le Premier ministre vanuatais Jothan Napat a expliqué que certains membres de son gouvernement craignent que le traité en question limite la capacité du Vanuatu à conclure des accords avec d'autres pays pour financer le développement d'importantes infrastructures essentielles. Allez, on va terminer ce journal avec le sport et du cyclisme et la quatrième étape du Tour Tahiti Nuit. Elle s'est courue autour de Papeete avec une arrivée au sommet du Tahara, étape remportée par le métropolitain Maxime Joly devant le leader au général, l'américain Quinn Felton. Les Calédoniens Hugo Pommelé et Thomas Rizzolatti sont arrivés environ une minute plus tard. Il y a de quoi être satisfait au terme d'une étape mouvementée, nous a dit Thomas Rizzolatti.
Sur le final, les Américains ont bien contrôlé, ça a roulé très très fort. La dernière ascension, c'était très court et très rapide. Je fais 13e de l'étape et Hugo un peu derrière qui doit faire 17e.
Des bons résultats pour Thomas Rizzolatti que l'on vient d'entendre, car cette arrivée lui permet de remonter à la 3e place du classement des jeunes, juste derrière Hugo Pommelé. Demain, la 5e étape se courra à Moréa. 18h13, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Le temps à venir, nous sommes tout oui, Pierre.
Cette nuit, le ciel redeviendra clair, un peu nuageux sur l'ouest, tandis que sur le reste du territoire, l'Alizé transportera encore des averses isolées. Sur l'ouest, le vent s'orientera à l'est en mollissant entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il restera voisin de 15 nœuds, atteignant localement 15 à 20 nœuds de Puébo à Bélep et sur Ouvéa. Les températures minimales oscilleront entre 16 et 21 degrés, avec des valeurs plus fraîches dans l'intérieur des terres, autour de 13 à 15 degrés. Demain matin, le soleil dominera largement sur la côte ouest, malgré quelques nuages qui s'échapperont déjà du relief en fin de matinée. Sur les autres régions, les passages nuageux persisteront avec encore de faibles averses. Aux Loyautés, les éclaircies s'imposeront progressivement et le temps s'assèchera. Côté vent, sur l'ouest, il restera faible au lever du jour, avant de s'établir au sud-est autour de 10 nœuds. Ailleurs, l'alizé d'est-sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds, avec un bon 20 nœuds attendu de Puébo à Bélep. Côté marée, pour les pêcheurs, demain vendredi, la marée basse sera à minuit 29. Elle remontera ensuite pour 6h et 8 minutes avant de redescendre pour midi et 17 minutes.
Merci beaucoup Pierre. Et après l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique, vous avez rendez-vous avec l'actualité en métropole et dans le monde. C'est le journal d'Europe 1 dans un petit instant. À 18h30, l'interview d'Europe 1. Sonia Babrouk reçoit aujourd'hui Louis Laugier, c'est le directeur général de la police nationale. Belle fin de soirée.